Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le numéro des cahiers de Science et Vie actuellement en kiosque se penche sur les nouveaux mystères de Paris. Franck Ferrand l'a feuilleté pour nous. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Je l'ai non seulement feuilleté, mais disons que je m'en suis délecté, car les cahiers de Science et Vie nous font un véritable cadeau avec ce numéro sur Paris, plein de surprises. Alors il y a des titres qui sont un peu forts. Je vous lis les accroches de couverture. On va parler des coulisses de la ville lumière, des secrets des monuments, des dessous des travaux d'Haussmann, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans le cours de cette émission, mais aussi des sujets peut-être un peu moins attendus, ce que cachent les eaux de la Seine, et là il y a des choses. Ou pourquoi les Parisiens sont d'éternels rebelles, question que se sont posées tous les gouvernants de notre pays. Je suis heureux de recevoir l'invité d'honneur de ce beau numéro, Ruth Fiori, qui est historienne du patrimoine, à côté d'elle, dans ce studio, Alexandre Gady, qu'on ne présente plus aux auditeurs d'Europe 1, évidemment, et Tristan Duval, qui viendra nous parler de Paris Story. Voilà une chose qui existe depuis longtemps, mais qu'on a parfois tendance à oublier. Pour ma part, et à titre de mise en bouche, je vous propose d'aller faire un tour du côté des Halles. Pourquoi ont-ils tué Baltard, se demande l'un des contributeurs du numéro des cahiers de Science et Vie. Eh bien, nous allons nous la poser, cette question. Alors, on va parler des Halles, non pas de la canopée qui sera très bientôt inaugurée au Forum, mais du vieux, de l'insondable ventre de Paris.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Michel sur les superstitions liées au miroir.
Eh bien, on ira faire un tour de l'autre côté du miroir. Pour le moment, nous avons rendez-vous aux Halles chez Monsieur Baltard.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Souvent que le Paris que nous avons sous les yeux est le Paris d'Haussmann, mais on oublie généralement que la plus spectaculaire des créations parisiennes du Second Empire a disparu. C'était les 12 pavillons de Baltard et Calais, des pavillons de verre aux armatures métalliques comme on pouvait les faire à cette époque. Des pavillons dont Napoléon III avait lancé la construction au tout début de son règne et qui furent inaugurés par l'impératrice, par la toute nouvelle impératrice, en 1857. De vastes pavillons qui accueillaient l'un la farine et la boulangerie, un autre la viande, un autre les légumes, un autre la crèmerie, etc. selon le principe qui était déjà en vigueur depuis le début de la monarchie de Juillet, un peu partout dans la plupart des grandes villes de France. Des pavillons éclairés par quelques 1200 becs de gaz et qu'Émile Zola, dans ses emportements avec sa verve naturaliste, devait immortaliser dans son fabuleux Ventre de Paris. Dans ce roman, le héros Florent, évadé de Cayenne, où il avait été déporté par erreur à la suite du coup d'État de 1851, Florent donc découvre le tout nouveau marché des Halles. Je passe la parole au grand auteur. Les trois rues du carrefour, la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigot, l'inquiétèrent. Elles étaient encombrées de voitures de toutes sortes. Des légumes couvraient les trottoirs. Alors il alla devant lui jusqu'à la rue Pierre-Lescot, où le marché aux cressons et le marché aux pommes de terre lui parurent infranchissables. Il préféra suivre la rue Rambuteau, mais au boulevard Sébastopol, il se heurta contre un tel embarras de tapissières, de charrettes, de chars à bancs, qu'il revint prendre la rue Saint-Denis. Là, il rentra dans les légumes. Aux deux bords, les marchands forains venaient d'installer leurs étalages, des planches posées sur de hauts paniers, et le déluge de choux, de carottes, de navets recommençait. Les Halles débordaient. Il essaya de sortir de ce flot qui l'atteignait dans sa fuite. Il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles. Et il s'arrêta, découragé, effaré, ne pouvant se dégager de cette infernale ronde d'herbe qui finissait par tourner autour de lui en le liant aux jambes de leur mince verdure. Au loin, jusqu'à la rue de Rivoli, jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville, les éternels fils de roues et de bêtes attelées se perdaient dans le pêle-mêle des marchandises qu'on chargeait, de grandes tapissières emportaient les lots des fruitiers de tout un quartier, des chars à bancs dont les flancs craquaient partaient pour la banlieue. Rue du Pont-Neuf, il s'égara tout à fait. Il vint trébucher au milieu d'une remise de voitures à bras. Des marchands des quatre saisons y paraient leur étalage roulant. Ce formidable, gigantesque, tentaculaire marché des Halles s'était installé dans ces pavillons métalliques dont je vous parlais, ces pavillons vitrés, tout neufs certes, débordant très largement sur toutes les rues du centre de Paris, mais en vérité, le marché, lui, n'était pas nouveau. Et quand je dis qu'il n'était pas nouveau, je ferais d'ailleurs beaucoup mieux de dire qu'il était très ancien. Cela faisait 750 ans que les Halles, ou plus exactement la Halle, comme on disait au Moyen-Âge, occupaient tout ce quartier parisien, tout le centre de la rive droite. Vous savez, pendant très longtemps, Paris, ça a été trois choses. Un cœur qui se situait essentiellement sur l'île de la Cité, qui était le cœur régalien, administratif. Et puis tout ce qui était le sud, avec pas mal d'abbayes et beaucoup de terrains à cultiver, c'était les collèges et c'était l'ancienne université, la rive de l'université, le fameux quartier latin, puisque c'est là que les Romains avaient fait croiser leur Cardo et leur Decumanus. Et puis, au nord, c'est-à-dire dans toute la rive droite de Paris, la région des échanges, du commerce, sous évidemment l'égide des fameux nôtres, hein, de cette corporation des marchands marins de Paris, c'était le commerce et c'était donc la Halle qui occupait tout ce centre de la rive droite. Et dire qu'au départ, tout ça se trouvait en plein champ. C'est en 1111, en effet, la date est facile à retenir, 1111, on dirait que ça a été fabriqué pour les écoliers, cette histoire. C'est à cette époque que le roi Louis VI, Louis le Gros, a décidé de déplacer le principal marché parisien, qu'on appelait le marché Palu. Jusque-là, il encombrait la place de Grève, donc grosso modo notre actuelle place de l'Hôtel de Ville. Il n'y avait pas les quais comme aujourd'hui, hein, tout ça descendait en grève, hein, descendait en rive, en berge vers la Seine. Alors certains vous diront vers Lyon, mais enfin moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Et donc le roi, pour libérer la ville, a décidé d'exiler les marchands et vivriers hors des murs de la ville et de faire construire une très grande halle au milieu des champs, près du lieu dit des Petits Champs. Vous connaissez aujourd'hui la rue des Petits Champs, hein, tout ça est dans le même coin. Ça se nommait alors les Champeaux. Les Champeaux, c'était les Petits Champs. Peu à peu, la ville s'est développée, elle a débordé de ses murs, Philippe Auguste a créé de nouveaux remparts plus vastes, puis Charles V à son tour, et les Champeaux se sont retrouvés englobés dans Paris. En 1269, Saint-Louis avait fait construire trois nouvelles halles à côté de la première. On s'est mis donc à parler à ce moment-là des halles au pluriel, même s'il a fallu très longtemps pour qu'on se mette à dire les halles. L'habitude est demeurée de dire la halle pour désigner non pas l'endroit, mais d'une façon plus générale tout le groupe humain et social constitué par cette foule grouillante de marchands, de commis, de porteurs, les fameux forts des halles, de négociants, de convoyeurs, bref, très importante la halle de Paris dans l'histoire de la capitale, très importante dans l'histoire de France, très importante dans notre mémoire. Les Halles sont là et chaque jour, en quelque sorte, elles nous rappellent la présence au cœur de Paris de cette extraordinaire industrie vivrière.
Dans les Halles de Paris, près de la rue Saint-Denis, il y a tout un monde qui vit et qui grouille dans la nuit. Il y a les mains pleines de sang qui portent des bœufs saignants. Il y a le bruit des gros camions qui transportent le poisson. Et il y a les trognons de choux qui roule vers les égouts, pyramides de carottes que l'on va lier en bottes, des poireaux, des échalotes, des volailles qui gigotent, des déchets pour les gargotes.
Les frères Jacques, on écoutait les Halles de Paris. Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez au cœur de l'histoire. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, par mail europe1.fr. Il y a également la page Facebook de l'émission. Nous sommes au cœur de la capitale cet après-midi avec vous, Franck Ferrand. Nous nous baladons dans le ventre de Paris, les Halles.
Ce qu'il faut vous dire, Omblyne, c'est que pendant longtemps, la politique du royaume s'est en partie faite dans ce cœur battant de Paris, dans l'univers étrange et surchauffé qu'était la Halle, entre Saint-Eustache et le cimetière des Innocents. À l'époque de la guerre de Cent Ans, c'est la Halle qui, avec Étienne Marcel, bien entendu, fait la révolution, massacre les conseillers de Charles V. C'est encore la Halle qui, un peu plus tard, lapide le connétable d'Armagnac, livre la capitale aux Anglo-Bourguignons. C'est la Halle, toujours, qui fomente les barricades contre Henri III, qui appuie la Fronde, et combien, qui décide en 1789 d'aller chercher à Versailles le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, entendez Louis XVI, Marie-Antoinette et le Dauphin. Sous l'Ancien Régime, les dames de la Halle, c'est-à-dire les commerçantes qu'on appelle volontiers les harengères, participent à tous les grands événements publics. Elles viennent présenter leurs compliments aux reines de France quand celles-ci ont accouché. Elles ont leur prince protecteur. Alors on a beaucoup parlé du duc de Beaufort, bien entendu, mais aussi du grand dauphin, du régent Philippe d'Orléans. Bref, ce que nous appelons les Halles, ça a longtemps été le carrefour de toutes les informations, de toutes les rumeurs, de tous les mouvements d'opinion, si j'ose cet anachronisme. Il était très important pour le pouvoir en place de se faire bien voir de cette espèce de chaudron d'opinion. À la fin du règne de Louis XVI en 1780, les Halles doublent de surface grâce à l'expropriation de 7 millions de Parisiens. Oh, ils ont été très faciles à exproprier, ces Parisiens-là, puisqu'ils étaient morts depuis longtemps. On a en effet décidé de vider de ses ossements le grand cimetière des Innocents et de réinhumer tous les ossements dans les anciennes carrières d'enfer au sud de Paris, sous l'actuelle place d'enfer Rochereau. Cela fait beaucoup de place libérée d'un coup. Ça permet aux Halles de s'étendre, ce qui était devenu, c'est le moins qu'on puisse dire, vital. Sans mauvais jeu de mots. Par la suite, Napoléon, puis surtout Louis-Philippe, vont se charger d'assainir, de rationaliser autant que faire se pouvait, de moderniser les Halles, devenues le plus grand marché de la planète, une sorte de concentration de marchandises qui débordait de partout, je vous l'ai dit, sur tout le centre de Paris. Et donc, finalement, c'est Napoléon III qui va commander à Baltard ces Halles modernes de fer et de verre que nous décrit Zola. Alors pour bien faire, faudrait vous lire des dizaines de pages du chef-d'œuvre d'Émile Zola, de ce ventre de Paris qui atteint des sommets dans l'inspiration naturaliste. Laissez-moi seulement citer une des pages les plus évocatrices. Je l'ai déjà fait à ce micro et je me rappelle que ça avait pas mal surpris les gens. C'est cette page qui évoque le réveil des Halles aux premières lueurs du petit matin. Zola nous parle, je le cite, d'une cité tumultueuse dans la poussière d'or volante. Le réveil avait grandi, écrit-il, du ronflement des maraîchers couchés sous leurs limousines au roulement plus vif des arrivages. Maintenant, la ville entière repliait ses grilles. Les carreaux bourdonnaient, les pavillons grondaient, toutes les voix donnaient, et l'on eût dit l'épanouissement magistral de cette phrase que Florent, depuis 4 heures du matin, entendait se traîner et se grossir dans l'ombre, à droite, à gauche, de tous côtés. Des glapissements de criers mettaient des notes aiguës de petites flûtes au milieu des basses sourdes de la foule. C'était la marée, c'était les beurs, c'était la volaille, c'était la viande. Des volées de cloches passaient, secouant derrière elles le murmure des marchés qui s'ouvraient. Autour de lui, le soleil enflammait les légumes. Il ne reconnaissait plus l'aquarelle tendre des pâles lueurs de l'aube. Les cœurs élargis des salades brûlaient. La gamme du verre éclatait en vigueur superbe, les carottes saignaient, les navets devenaient incandescents dans ce brasier triomphal. À sa gauche, des tombereaux de choux s'éboulaient encore. Il tourna les yeux, il vit au loin des camions qui débouchaient toujours de la rue Turbigot. La mer continuait à monter, il l'avait sentie à ses chevilles, puis à son ventre. Elle menaçait à cette heure de passer par-dessus sa tête. Il y a dans ces Halles tentaculaires décrites par le grand écrivain quelque chose d'angoissant, il faut bien le dire. Le refuge du héros est dans les caves qui se trouvent, et on l'a longtemps ignoré, au sous-sol des pavillons. Pris d'anxiété nerveuse, Florent descendait aux caves, écrit-il, par le large escalier qui se creuse au milieu du pavillon. Là, dans l'air renfermé, dans le demi-jour des quelques becs de gaz, il retrouvait la fraîcheur de l'eau pure. Il s'arrêtait devant le grand vivier où les poissons vivants sont tenus en réserve. Il se plaisait aussi le soir au beau coucher de soleil qui découpait en noir les fines dentelles des halles sur les lueurs rouges du ciel. La lumière de 5 heures, la poussière volante des derniers rayons, entrait par toutes les baies, par toutes les raies des persiennes. C'était comme un transparent lumineux et dépoli où se dessinaient les arêtes minces des piliers, les courbes élégantes des charpentes, les figures géométriques des toitures. À chaque heure, les jeux de lumière changeaient ainsi les profils des halles, depuis les bleuissements du matin et les ombres noires de midi, jusqu'à l'incendie du soleil couchant, s'éteignant dans la cendre grise du crépuscule, par les soirées de flammes, quand les puanteurs montaient, traversant d'un frisson les grands rayons jaunes comme des fumées chaudes, les nausées le secouaient de nouveau, son rêve s'égarait, à s'imaginer des effluves géantes, des cuves infectes d'écarisseurs où fondait la mauvaise graisse d'un peuple. J'espère pour vous que vous n'êtes plus à table, on peut espérer à 14h18 que c'est le cas, mais si jamais vous aviez encore un peu d'appétit, rassurez-vous, nous allons dans un instant revenir à des choses nettement plus présentables. Bonjour Alexandre Gady, merci beaucoup d'être fidèle à cette émission et de venir nous parler de ce Paris dont vous êtes amoureux. Et merci à vous, Ruth Fiori, d'avoir accepté de revenir, si je puis dire, puisque vous avez livré à la rédaction des cahiers de Science et Vie un certain nombre de données, de clés pour comprendre Paris et son histoire. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Vladimir Cosma sur Europe 1, un extrait de la série télé Les Mystères de Paris. Et les Mystères de Paris, nous y sommes. Cet après-midi, vous recevez Franck Ferrand, l'historienne du patrimoine Ruth Fiori et l'historien d'art de la Sorbonne, Alexandre Gady.
Il y a évidemment un jeu de mots sur les Mystères de Paris. On n'est pas chez Eugène Sue cet après-midi, mais on est dans un certain nombre des mystères historiques et patrimoniaux de cette ville. Et j'ai commencé par les Halles parce qu'il m'a semblé que ça a été, somme toute, à la fin du XXe siècle, la plus grosse transformation à l'intérieur de Paris, Ruth Fiori.
Oui, en effet, les Halles marquent un nouveau stade au niveau de la transformation de Paris et de l'évolution de l'histoire du patrimoine.
Ça faisait longtemps qu'on en parlait, on avait l'intention depuis longtemps de déplacer les Halles. Elles gênaient depuis le milieu du XVIIe siècle déjà.
Oui, en effet, et concernant même les Halles, à proprement parler de Baltard, déjà au début du XXe siècle, on commence à voir des projets qui sont énoncés de transformation, de transfert surtout, ou de transformation totale.
Est-ce qu'on n'aurait pas pu, je vous pose la question et je reposerai la même ensuite à Alexandre Gady, est-ce qu'on n'aurait pas pu changer, transformer, améliorer les Halles sans les envoyer très loin de Paris? Parce que là, elles sont vraiment parties très loin maintenant.
En réalité, c'est d'abord cette solution qui avait été envisagée, puisque dans les années 30, on décide justement, dans le cadre de ces projets d'agrandissement, pour éviter le transfert, de terminer le projet initial de Baltard, qui était donc de 12 pavillons. Jusque-là, seuls les 10 premiers pavillons avaient été construits. Et c'est seulement en 1934 qu'on construit les 2 derniers pavillons qui entourent la Bourse du Commerce. Donc déjà, c'était une manière de répondre à ce problème de l'emplacement des Halles en proposant un agrandissement. Finalement, on verra effectivement après que ça ne suffira pas puisqu'on va décider de les transférer dans les années 70.
Il y a tout ce réseau de voies de communication, évidemment, il fallait approvisionner les Halles. Si on avait pu le faire par hélicoptère comme aujourd'hui ou par les égouts, ça aurait peut-être été plus facile. Mais par les rues, c'était bien encombrant, Alexandre Gady.
Oui, on peut peut-être aller plus loin et dire qu'au fond, on est fasciné par les Halles de Baltard et le choix de Napoléon III qu'il a imposé. Et en même temps, c'est une de mes théories, vous la connaissez, le conservatisme des élites françaises, c'est un choix idiot, disons les choses. Parce que dès l'époque de Louis-Philippe, on réfléchit à l'amélioration de Paris et maintenir les Halles assez loin de la Seine pour ne pas bénéficier d'un approvisionnement en bateau, à côté d'aucune gare qui commence à apparaître.
Mais c'est ça.
Mais desservi par des ruelles du XIIe et du XIIIe siècle, c'est idiot et malheureusement c'est un choix conservateur qui va être fait et le destin des Halles est contenu dans le choix d'avoir maintenu sur le marché de Louis VI le Gros c'est-à-dire un emplacement qui était devenu de périphérique ultra central.
Mais un choix, vous dites conservateur pour des raisons de parce qu'on ne voulait pas bouger les choses ou parce que en même temps c'était un inconvénient considérable pour tout ce qui était monuments, urbanisme, etc.
C'est un des mystères de Paris, si j'ose dire, du chantier d'Haussmann. Regardez le cas de l'Hôtel Dieu qui est en train douloureusement aujourd'hui d'éclater sous nos yeux. Regardez le cas de la Bibliothèque nationale, qu'il a fallu déménager à grands frais d'un hôtel particulier où il était resté par hasard sous le Second Empire. Il y a une forme de conservatisme, on ne voit pas très loin. Et puis dès qu'il y a une solution courageuse, déménager les Halles, c'était courageux. Hein. C'était comme Louis XVI quand il a vidé le cimetière. C'était une décision très difficile à prendre pour un roi très chrétien. Là, c'était la même chose. On ne l'a pas fait, alors même que parallèlement au projet de Baltard, on connaît des très beaux projets qui proposent des solutions très modernes, évidemment, mais pas au centre de Paris.
Et en même temps, lorsqu'on regarde l'évolution de Paris, la création progressive de tous ces grands axes de circulation, de ces boulevards sur les anciens remblais des remparts, l'installation de ces grandes places royales qui vont émailler tous les grands règnes du XVIe et du XVIIe siècle, peu à peu la percée de nouvelles artères, je pense évidemment à la rue de Rivoli sous le Premier Empire par exemple, enfin, etc. Et puis, bien sûr, et nous y arrivons, avec la construction de tous ces grands monuments d'Haussmann et de toutes ces avenues et de tout ça. Bon, il y a quand même eu des projets de très grande envergure dans Paris. On a constamment essayé de faire un peu table rase, Ruth Fiori.
C'est ce qu'on constate en effet sous Haussmann. C'est ce qui va être en grande partie continué sous la Troisième République.
Oui, et on n'a pas, au-delà, on n'a pas d'autres exemples. On avait quand même des projets, hein. On avait des projets dans les années 30 notamment.
Oui, en fait, la difficulté, si on prend les chantiers de Paris à partir du 19e siècle, c'est une question assez passionnante que nous allons revivre à nouveau. Pardon, je fais des sauts avec l'actualité, mais avec notre Grand Paris. Vous savez que le Grand Londres a été fait en 1965. On est tout à fait en retard.
On a près d'un siècle. Enfin, pas un siècle, mais on a un bon demi-siècle
de retard. La question qui s'est posée dès le règne de Louis-Philippe, c'est la question du déplacement de Paris. Est-ce que finalement, si on laisse les Parisiens faire, c'est-à-dire les nouveaux quartiers, la Nouvelle Athènes, la Chaussée d'Antin, la Plaine Monceau, est-ce que Paris va changer de centre? Et là, ça terrorise la bourgeoisie qui veut absolument revenir au centre, s'y maintenir et naturellement y faire des affaires. Parce qu'il faut rappeler que les expropriations ont rapporté beaucoup d'argent, trois fois plus que le vrai prix, à ceux qui se trouvaient sur place. Donc les choix haussmanniens sont un espèce de balancement très curieux entre des choses de progrès, plus de jardins, en réalité moins dans le centre, mais à la périphérie, de l'eau, enfin, ça c'est son grand œuvre, mais aussi beaucoup de casses inutiles et souvent des projets à courte vue comme celui des Halles, par exemple. Mais c'est pourquoi la question de l'haussmannisme s'est reposée dès la Troisième République, en réalité assez rapidement, avec des propositions d'inflation, si j'ose dire, post-haussmannienne, encore plus d'avenues, encore plus larges. Et à la fin, on arrive, vous savez, dans les années 50, au fameux projet Rotival, où en gros, il faut raser Paris pour laisser de la place à Paris.
Ça. Voilà. Alors là, ça devenait complètement démentiel.
Voilà.
Quand même, oui.
Parce qu'on ne peut pas transformer une ville sur un tout petit espace sans bouger sur le plan foncier. Et c'est un peu notre drame aujourd'hui. On est toujours enfermé dans les limites administratives de l'enceinte démolie de Thiers. Et vraiment, c'est une ville qui étouffe.
C'est-à-dire, c'est le périph, en fait. Hein,
oui, c'est notre périphérique, c'est-à-dire l'ancienne enceinte plus la zone non édificante.
Voilà, c'est ça.
La limite a été fixée, je crois, en 1931 définitivement. Et il faut dire la vérité, c'est la plus petite capitale des grands pays civilisés.
C'est ça, c'est comme si on avait fait une espèce d'énorme mur autour de Paris et Paris ne peut plus croître. Alors, tout ce qui se fera en dehors. C'est quand même, c'est vrai que c'est un paradoxe, forcément.
Et le plus grand des paradoxes, c'est la Défense, qui est le vrai quartier d'affaires parisien, le Manhattan français, si on veut rester dans le fantasme américain. Et il faut penser qu'on a fait la Défense sans rattacher le territoire de la Défense à Paris, ce qui fait que la manne financière des sociétés de la Défense ne tombe pas dans la caisse de Paris.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Mais là, vraiment, il faut voir à l'échelle du dernier XXe siècle combien nous sommes mal gouvernés par des gens qui n'ont pas d'idées.
Eh ben voilà, ça c'est dit. Nous allons revenir un peu en arrière, si vous le voulez, parce que j'aimerais qu'on revienne en détail sur le Paris d'Haussmann. Quand je dis le Paris, cette fois, c'est sans S, bien entendu.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Avec Europe 1, les cahiers sciences et vie sur les nouveaux mystères de Paris vient de paraître. Vous recevez Franck Ferrand, l'historienne du patrimoine Ruth Fiori, l'historien de l'art à la Sorbonne Alexandre Gady.
Alexandre Gady, quand je vous entends parler et prendre à partie nos gouvernants comme vous l'avez fait, je me dis que vous êtes bien parisien, vous aussi, vous avez la tête près du bonnet, comme on dit. Les Parisiens ont cette dimension rebelle et même révolutionnaire. C'est une constante dans l'histoire, c'est étonnant d'ailleurs ça.
Ah oui, il faut penser d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, Paris est une commune dérogatoire au droit général des communes, puisqu'il y a un préfet de police qui est à l'impérium de...
Même si maintenant il y a un maire, mais pendant longtemps il n'y avait même pas de maire du tout.
Un maire élu depuis 77, mais en revanche, pour les pouvoirs de police, chacun les a réclamés depuis 77 et je crois qu'ils sont pas prêts de les avoir.
D'où ça vient cette espèce de... C'est une concentration de, entre guillemets, de prolétariat urbain, si j'ose un deuxième anachronisme pour cette même émission?
Je crois pas seulement. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect classique, c'est que si on fait la liste, les révolutions sont très nombreuses depuis le Moyen-Âge.
Oui,
les coups de chaud, les
Et bien
les
souvent, c'est Paris qui a fait les révolutions contre une France qui, elle, n'en demandait pas tant. Hein.
Absolument. Mais aussi, une clé d'explication importante, je crois, c'est qu'on oublie que jusqu'en 1750, et là, ça nous paraît tellement incroyable aujourd'hui, Paris est la ville la plus peuplée du monde.
Et oui, voilà.
Et oui. On a été doublé par Londres au milieu du 18e, mais vous imaginez, ce qui frappe les contemporains quand ils visitent Paris, c'est pas les beaux monuments, c'est la presse extraordinaire dans les rues, le fait que traverser la rue Saint-Honoré, c'est un exploit d'une rive à l'autre. Et donc, il y a cette concentration humaine qui fait peur à la monarchie. Vous connaissez la phrase de Louis XIV, hein, les grandes villes trouveront en elles-mêmes le principe de leur ruine.
On a longtemps dit que dans la volonté qu'avait Napoléon III de transformer Paris, parce qu'on dit toujours le Paris d'Haussmann, mais si on regarde, si on regarde vraiment les archives et les projets, c'est vraiment Napoléon III lui-même qui transforme Paris, Haussmann n'étant qu'une courroie de transmission, en quelque sorte. On a longtemps dit que dans cette volonté impériale, il y avait la volonté, justement, de tenir la ville en respect et de permettre à des garnisons de très vite se rendre maître de quartiers qui viendraient à s'insurger.
C'est vrai, la grande peur de 1848, là,
les grandes révolutions, 1789, 1830, 1848, ça fait beaucoup. Il y aura la Commune en 71, mais 70, 71.
Mais ça ne peut pas suffire, je crois, à résumer quand même. Ce serait trop peu dire, même si ça ne doit pas être évacué de la pensée de Napoléon III. C'est plus subtil, heureusement, que ça.
Il y avait une grande volonté d'urbanisme chez Napoléon III, rue de Fiori?
Il y avait une grande volonté, mais il me semble qu'il faut aussi rappeler que Napoléon III, finalement, a surtout mis en œuvre un programme, enfin des pensées qui étaient déjà présentes bien avant et qu'on commence à entrevoir dès la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, tous ces travaux sur l'île de la Cité, c'est des choses qui étaient déjà envisagées par les architectes et les pensées des Lumières à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, donc en fait, il est dans le prolongement d'idées qui étaient bien plus anciennes, qui étaient antérieures même à la Révolution, nous dites-vous.
Oui, il a mis en œuvre, il a à une échelle, enfin une ampleur inégalée jusque-là, certes, mais il a mis en œuvre des pensées qui avaient déjà émergé avant la Révolution.
Alors, pour créer ces nouveaux monuments, ces nouvelles places, ces avenues, ces boulevards, en fait, etc., pour inventer la ville moderne, la ville Napoléon III de Paris, il a fallu, bien sûr, sacrifier un certain nombre de chefs-d'œuvre. On a eu la main lourde, quand même, sous le Second Empire.
Alors. Oui, on peut réagir de deux façons à cette façon de voir. En fait, disons que Napoléon III, on dit qu'il a sacrifié des chefs-d'œuvre. Oui, au niveau monumental, il n'y a pas finalement tant de choses qui ont. Au niveau monumental, c'est au sens de monuments, d'architecture publique, il n'y a pas tant de choses qui ont été sacrifiées. Ce qu'il a sacrifié surtout, c'est au niveau du tissu urbain.
Ce sont des habitations, donc. En fait, des habitations,
mais aussi des églises, enfin des édifices religieux. Toutes les églises, à part Notre-Dame et la Sainte-Chapelle de l'île de la Cité, ont disparu à ce moment-là. On peut aussi penser à l'église de Saint-Benoît, par exemple, qui était près de l'actuelle rue des Écoles. Donc il y a bien sûr eu des édifices qui ont été sacrifiés, mais tous ces édifices faisaient partie d'un tissu urbain qui, à ce moment-là, n'était pas forcément reconnu ou perçu comme devant être absolument conservé.
Et on va voir naître à ce moment-là la notion de vieux Paris, Alexandre Gady, parce qu'avant qu'on ne construise le Paris neuf, il n'y avait pas de vieux Paris, il y avait Paris tout court.
Oui, le vieux Paris, c'est très beau. Ruturi a consacré sa thèse. C'est un élément qui est à la fois ressorti du sentiment, de la nostalgie, aussi politique, parce que le vieux Paris est né dans les bagages d'une certaine France royaliste, hostile notamment à la monarchie de Juillet, et donc il y a aussi de l'instrumentalisation, c'est ça qui fait la richesse, et puis c'est consacré par la phrase de Baudelaire, hein, sur le vieux Paris, donc il y a une prise de conscience qui est provoquée, comme la Révolution l'avait fait avec le patrimoine, par le choc que représentent ces travaux, qui sont effectivement considérables. 17 années de chantier intensif dans la capitale, tout le monde a vécu au milieu des gravats, beaucoup de destruction sur le plan quantitatif, effectivement colossal, jamais on n'avait vécu ça. Sur le plan qualitatif, ce qui vient d'être dit est juste, la nostalgie notamment des photos anciennes de Marville, des textes, peuvent nous amener à avoir une position patrimoniale anachronique. Cela dit, je relativiserai sur un point, c'est qu'avant d'engager Haussmann, qui est vraiment le nervi de l'affaire, Napoléon III avait fait une commission dont on a retrouvé les archives très tardivement, les archives de la commission Siméon, et il avait demandé lui-même, l'empereur, hein, qui était beaucoup plus sensible qu'Haussmann à la chose architecturale, de tâcher que dans les plans futurs, on ménage les belles maisons. Et c'est pas le terme belle église, beau monument, belle maison. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître là et qui va aboutir à la commission du Vieux-Paris et à l'idée de défendre la ville comme un objet.
Mais ce qu'il faut bien expliquer à nos plus jeunes auditeurs notamment, c'est que pendant très longtemps, Paris, c'était à la fois l'encombrement de petites rues médiévales dans tout ce qui est le centre de Paris ou du côté de la Seine, hein, bien entendu, sur les deux rives du reste, et puis aussi quand même beaucoup de verdure, beaucoup de maraîchers, de jardins, de promenades, de grands cours, comme on disait, pour évoquer ces grandes allées arborées. Il y avait les hôtels particuliers que vous connaissez si bien, avec leurs cours et leurs jardins. Il y avait de l'espace, il y avait une monumentalité. Tout ça existait quand même dans l'ancien Paris, ne l'oublions pas.
Oui, il y a toujours le problème avec Haussmann qu'on force un peu le trait pour bien faire sortir le héros, si vous voulez. Alors, le vieux Paris, si on le dit plus comme un mouvement mais comme une description objective, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans l'île de la Cité, grands travaux faits par Louis-Philippe pour dégager. Hein, il y a presque plus une seule église. Hein, il reste l'église des Barnabites, par exemple. Donc quand Haussmann arrive, beaucoup de jardins qui ont disparu dans le centre de la ville.
Il y a dans les cahiers de Sciences et Villes tout un chapitre consacré à ce qu'ils appellent les monuments fantômes. Et alors, ils ont reconstitué, c'est tout simple, en faisant de l'infographie, hein, simplement. Ouais. On retrouve l'emplacement de la Bastille sur l'actuelle place de la Bastille, tout le complexe des Bernardins autour de ce qui est aujourd'hui le collège, mais qui n'est qu'une partie, bien entendu, d'un complexe gigantesque. Et puis la forteresse du Louvre, à l'emplacement de l'étirement presque infini des grandes façades classiques que nous connaissons.
Mais si on veut avoir une bonne idée de ce qu'était Paris avant Haussmann, sans tomber dans des lectures compliquées, il faut aller au musée d'Orsay voir le merveilleux tableau Paris vu en ballon, 1855. On monte en ballon, on peut faire une sorte de photo picturale colossale et on voit, c'est pris depuis d'Enfer aux Chereaux, la manière dont Paris est très dense, mais entourée, c'est ça aussi un autre aspect qui a un peu disparu de notre mémoire, entourée de beaucoup de verdure.
Si vous suivez le conseil d'Alexandre Gady, je dis ça à nos auditeurs, prenez un peu de temps quand même, parce que c'est pas un tableau qu'on voit en 10 minutes. Hein. Il faut un temps fou, et pour peu qu'on se laisse prendre par le spectacle, on peut y passer l'après-midi, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, une volonté de préserver ce qui était beau, beaucoup de destruction quand même, on avait fait une émission ensemble là-dessus. Combien de choses merveilleuses a-t-on pu détruire, y compris dans une période très récente? Et puis alors, il y a votre combat actuel, la Samaritaine. Expliquez-nous où on en est.
Alors, on revient d'une certaine manière, non pas tout à fait à Haussmann, mais à Berger, le préfet qui a précédé Haussmann, qui est peu connu aujourd'hui, même s'il y a une rue Berger au Halles, et qui va faire percer donc le complément de la rue de Rivoli, c'est-à-dire entre le Louvre et l'actuelle rue Saint-Antoine, le quartier Saint-Paul. Alors là, il y a actuellement un chantier qui défraye la chronique, puisqu'on a démoli l'alignement haussmannien, c'est-à-dire l'alignement de grandes façades de pierre qu'on a l'habitude de voir dans les artères parisiennes, pour faire un immeuble en verre de bureau, donc une chose relativement banale sur le plan évidemment de la ville. Et c'est l'opération que poursuit le groupe Samaritaine, LVMH, à la fois rénover la vieille Samaritaine, l'ancien grand magasin qui va devenir un hôtel de luxe, et puis faire ces bureaux qui ont donc crevé l'alignement haussmannien, qui est pourtant protégé à Paris, comme tous ces grands alignements. Et donc, avec l'association que j'ai l'honneur de présider, nous avons...
qui n'est pas n'importe quelle association, c'est la plus vieille association de France, il faut le dire.
Absolument, née en 1901, nous avons donc obtenu l'annulation du permis de construire. Malheureusement, tous les Parisiens qui passent tous les jours devant cette rue savent que les travaux ont commencé, que donc on a crevé les façades et qu'il y a un trou aujourd'hui de 100 mètres rue de Rivoli, ce qui est quand même un peu évidemment douloureux pour tous les défenseurs de Paris.
Et ça risque de durer, si je comprends bien.
Nous sommes au Conseil d'État, donc nous allons voir jusqu'où ira notre adversaire. Je dis adversaire au sens sportif du terme, bien sûr. Mais il est clair que les maisons qui sont tombées, on ne les reverra pas. Et c'était des grandes façades en pierre de taille monumentale, qu'on appelle haussmannienne, mais qui en fait datait de 1852 et qui participe du schéma de l'immeuble parisien qui est né avant Haussmann et qui s'est prolongé après lui, bien sûr.
Alors, pour ceux qui voudraient vous soutenir, Alexandre Gady, je rappelle le nom de cette prestigieuse association, c'est la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
De Paris sont au cœur de l'histoire. Pour en parler, Franck Ferrand, vous recevez l'historienne du patrimoine Ruth Fiori, l'historien d'art à la Sorbonne Alexandre Guédy et le producteur du film Paris Story, Tristan Duval, président de Community.
Eh oui, bonjour Tristan Duval. Alors habituellement, vous présidez aux destinées d'une toute autre ville, hein, plus modeste, la proustienne cité normande de Cabourg. Mais là, c'est en tant que producteur de Paris Story que je vous invitais. Paris Story qui est une institution depuis un quart de siècle pour les professionnels du tourisme. Je suis sûr que lorsque vous nous aurez expliqué de quoi il s'agit, nos auditeurs comprendront tout de suite.
Oui, c'est un cinéma qui a été créé par Charles Ruti il y a près de 25 ans maintenant et qu'il dirige toujours, qui est assez atypique dans le paysage touristique et culturel parisien puisque c'est une volonté de donner le désir de découvrir tout ce fabuleux patrimoine.
Paris, à travers son histoire et ses monuments.
À travers son histoire et ses monuments, dans un film qui dure une cinquantaine de minutes et qui est une évocation de toute cette histoire, depuis sa création jusqu'à nos jours, où on traverse les temps, les époques, les évolutions que vous avez pu évoquer, les cicatrices que l'on découvre avec ce périphérique. Et dans le nouveau film qui est sorti en septembre dernier, plus que jamais, il prend toute cette dimension.
Alors ce film, il est totalement refait, si je puis dire. Pendant très longtemps, on a eu l'impression que Paris Story était destiné surtout aux quarts de touristes qui venaient prendre un cours accéléré d'urbanisme parisien avant d'aller se plonger dans les délices de la capitale. Et puis on découvre qu'en fait, n'importe qui peut prendre son billet et profiter de la leçon.
Ben c'est un peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir
oui,
sur Paris,
voilà.
Sans oser le demander en fait. Et puis en même temps, la possibilité de découvrir des lieux que tous les touristes en quelques semaines n'ont pas le temps de voir, la carrière des Capucins, les coulisses de l'Opéra de Paris, des endroits merveilleux comme ça que les touristes ne sont pas dans les guides pour quelques jours passés à Paris.
C'est que Paris est la première destination touristique du monde, elle le demeure. Alors je sais que depuis 18 mois on nous dit que c'est peut-être Londres, mais peu importe, en tout cas c'est une des toutes premières destinations.
Ça reste une destination qui touche... Le fantasme de beaucoup de touristes,
de la planète entière,
ça reste une ville merveilleuse.
Mais alors Ruth Fiori, qu'est-ce qui attire ainsi les touristes du monde entier à Paris? Ce sont les monuments, c'est l'esprit parisien, c'est l'ambiance des quartiers, c'est l'art de vivre, qu'est-ce qui les attire d'abord?
Je pense que c'est un peu tout ça, hein. Je suis pas sûre qu'il y ait une hiérarchie à établir. Et je pense que quiconque voyage un peu, au niveau en tout cas de l'architecture ou de justement l'urbanisme, on se rend compte que Paris est quand même une ville qui a été, au niveau architectural, qui est vraiment très aboutie, qui a vraiment une identité en soi architecturale. Et...
Si on devait mettre en avant un certain nombre de très saillants parisiens, d'ailleurs c'est ce que vous faites, hein, c'est ce que fait ce numéro des cahiers de Sciences et Vie, en parlant par exemple de ces toits, qui sont des toits tout gris, tout métallique, rien à voir avec les tuiles et les ardoises qu'on peut trouver dans d'autres villes de France.
Non, si ce n'est qu'il me semble quand même que dans le Paris plus ancien, il y a eu des tuiles et des ardoises.
Il y a eu.
Et que si les toits sont gris aujourd'hui, c'est sans doute d'abord lié à une évolution même de la forme même des toitures et donc de l'urbanisme. Et qu'ensuite, c'est donc en lien avec cette évolution-là même, une évolution aussi des matériaux, le zinc, qui est de plus en plus courant depuis le 19e siècle. Donc...
Mais ce zinc qui s'est emparé des toitures parisiennes, alors il y a tout le long de ces grandes artères dont nous parlons tout à l'heure, des façades dont chacune est plus monumentale, plus théâtrale, plus spectaculaire que la voisine. Et il y a une sorte de... Vous pensez qu'il y a eu une émulation chez les architectes et chez les commanditaires?
Alors ce qui est sûr, c'est que depuis le début du XXe siècle, les règlements de voirie, les règlements d'urbanisme favorisent cette recherche de forme architecturale et notamment cette recherche esthétique au niveau des toitures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est favorisé par ces règlements qui eux-mêmes ont été mis en place pour favoriser justement l'émergence d'une nouvelle esthétique des immeubles.
Quand on évoque le château de Fontainebleau, Alexandre Guédy, on parle souvent de cette juxtaposition des styles et de cette espèce de coexistence des siècles. On a un peu l'impression de la même chose à l'échelle de Paris. Quand on est place Dauphine, quand on est devant le centre Pompidou, quand on passe d'un siècle à l'autre, comme ça, quasiment sans transition et avec beaucoup d'harmonie globalement.
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Paris, effectivement, qui sont additionnés. Et la force de l'image qu'a donné le 19e siècle à Paris, c'est qu'il y a une image générale. Et c'est une image de ces grandes avenues, de ces grandes façades en pierre dont vous disiez qu'elles étaient très chargées. Aussi, j'insiste, là encore, vous allez me dire que je suis en colère, une ville horizontale.
Non, mais vous êtes un coléreux, vous êtes un coléreux, c'est votre droit en même temps.
C'est mon caractère.
Voilà.
Comme l'a dit l'UNESCO, hein, c'est une ville horizontale. Hein. Paris n'est pas une ville à tours. Bon, bah, il y a des très belles tours, mais voilà, ça tombe pas chez nous comme ça. Voilà, c'est une histoire, donc une grande ville horizontale. Et quand on passe cette première image, qui est très forte, et pour un touriste qui reste trois jours,
très
difficile,
oui, bien sûr,
à dépasser, il y a le vieux Paris, Paris médiéval, Paris de la Renaissance, le Marais, le Faubourg Saint-Germain. Et là,
Paris
on peut
romantique,
dans un,
très important, bien sûr, toute la belle
Athènes,
époque.
Évidemment,
oui.
Et on peut découvrir un autre Paris avec une sorte de une photo sous la photo qui est sans doute souvent plus plus émouvante, évidemment, moins spectaculaire, moins prétentieuse que le Grand Paris du 19e, mais plus touchante.
Il y a peut-être aussi un Paris de l'ambition. Quand on voit les dimensions de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, quand on voit, et d'ailleurs, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, ça, c'est le premier empire, même s'il n'est inauguré que sous Louis-Philippe. Il y a une exposition en ce moment au musée Carnavalet. J'ai sous les yeux le catalogue. Il est magnifique. Ça s'appelle Napoléon et Paris, rêve d'une capitale. Alors, je dois reconnaître bien humblement que je n'ai pas encore été visiter l'expo, mais j'imagine que vous, vous l'avez fait, Alexandre Gadi.
Oui, oui, j'étais à l'inauguration. Quel bonheur de voir, évidemment, il y a 380 pièces, hein. Tous les documents rassemblés, peut-être d'une certaine manière d'ailleurs beaucoup trop. C'est compliqué.
Il y a une quantité. Hein.
C'est compliqué de choisir. Mais c'est vrai que si vous aimez Napoléon, si vous aimez Paris, là vous êtes servi très largement. Et je signale une chose merveilleuse, ont été ressortis des réserves un jouet fait pour les enfants de Louis-Philippe, qui sont trois arcades de la rue de Rivoli à monter en cube. C'est du sort de Lego géant fait pour les enfants de Louis-Philippe. C'est absolument merveilleux.
Il y a un aspect que je n'ai peut-être pas suffisamment souligné, c'est l'animation de Paris aussi, même si certains ont tendance à dire, des esprits chagrins disent qu'on s'amuse moins à Paris aujourd'hui qu'il y a 20 ans, je ne sais pas, il y a des hauts et des bas, disons. Mais il y a quand même 40 théâtres, il y a une quinzaine de très grandes salles de spectacle, il y a deux opéras somptueux, maintenant trois si l'on compte même la philharmonie. Donc il y a énormément d'animation dans cette ville. Également des animations de rue. Alors là, je me tourne vers Tristan Duval parce que vous êtes à l'origine des pianos dans la ville.
Oui, bah c'est cette volonté qui est de promouvoir le patrimoine et de promouvoir aussi la vie parisienne. Et donc on a installé avec Luc Géram et dans Paris une quarantaine de pianos qui sont installés et que les gens peuvent comme ça
et
utiliser.
On les entend. Je parle là en parisien. Quand on se promène, j'étais à la gare Saint-Lazare avant-hier. Je peux vous dire qu'on entend le piano.
Hein. Donc en fait, dans les gares, c'est une continuité de cette opération qui a été créée maintenant il y a 4-5 ans, et dans laquelle en fait les pianos sont disposés comme ça dans les lieux patrimoniaux, dans des lieux inattendus, et les Parisiens peuvent ainsi comme ça d'abord descendre de chez eux pour jouer devant tout un chacun, et puis en même temps
se rencontrer, parler,
ça crée de l'animation. En plus, c'est une opération qui est très généreuse et vertueuse, puisqu'ils sont ensuite offerts et donnés à des institutions.
Oui, donc on a envie de dire que ce n'est que citoyen comme démarche. Il y a une sociabilité particulière à Paris parce que les Parisiens ont la réputation d'être particulièrement farouches et de mauvais voisinage, rue de Fiori. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vie, il y a quand même des vies de quartier, il y a une vie d'immeuble, il y a...
Ah oui, oui. Je pense que quand on habite à Paris, on se rend compte qu'il y a une vie de quartier.
Non, mais il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en doutent pas. Vous savez, on imagine toujours la grande ville très anonyme.
Je pense que ça fait partie de la mythologie, la littérature sur Paris, mais que, voilà, quand on habite à Paris, on n'est pas forcément dans les mythologies et
La population a quand même beaucoup changé depuis 150 ans. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a beaucoup évolué.
Il y a sans doute beaucoup plus
dans le sud de Paris et dans l'est, on a moins de...
Il y a sans doute aussi beaucoup plus de brassage, mais ça n'empêche pas une sociabilité.
Oui, au contraire même, on peut le dire. Est-ce que d'une manière générale, vous pensez, Alexandre Gadi, que Paris est en train, comme tout le reste, de perdre ses spécificités? Est-ce que ce qui faisait les points les plus saillants, alors je pense au langage des faubourgs, je pense à un certain nombre de défauts aussi, hein, en termes d'embouteillage, de saleté, etc. Est-ce que tout ça est en train de se lisser pour faire de Paris une grande ville comme une autre?
C'est difficile parce qu'on est tellement pris tous les jours dans notre affaire qu'il faut se méfier des regards trop biais. Mais je dois vous dire qu'il y a deux jours, je montrais à mes enfants la traversée de Paris avec Bourville et Jean Gabin.
Formidable.
Et j'avais quand même l'impression, à travers l'argot, à travers les vieilles rues, à travers les immeubles qu'on voit dans le film, qui sont absolument merveilleux, que c'était pas tout à fait évidemment la ville que mes enfants connaissent. Bon, clairement, il y a des évolutions. Il reste des choses fondamentalement parisiennes. Le mauvais caractère, les insultes dès que la voiture démarre pas 3 secondes trop rapidement.
On a presque envie que ça dure d'une certaine manière.
Voilà. Il y a des comportements dans le film qu'on n'a pas envie de revoir.
Non, évidemment pas. On mange bien quand même encore à Paris. On s'amuse beaucoup. Vous disiez tout à l'heure l'offre culturelle parisienne. Quelle capitale occidentale offre aujourd'hui aux Parisiens, aux touristes, un tel niveau de spectacle, de cinéma, d'exposition? Regardez la saison que nous avons pour les grandes expos. C'est incroyable. Alors, il y a la crise, c'est une chose. Mais qu'on nous dise que Paris est en train de se déclasser, que n'est plus une grande ville, les bras m'en tombent. Et il y a un discours décliniste sur Paris qui est insupportable, y compris de la mairie de Paris, quelquefois, qui dit ça bouge pas assez, ça bouge beaucoup.
Vous pouvez être aussi très optimiste et très positif, vous voyez. J'ai cliqué, nous dit le forum des taxis via Twitter, mais sur la Samaritaine. Donc, vous voyez que votre affaire de Samaritaine intéresse les gens. C'était au départ, nous dit-on, le nom de la pompe à eau du Pont Neuf. Qu'est-elle devenue, cette pompe à eau ?
Napoléon l'a fait démolir, mais vrai que c'était une pompe avec une roue dans la Seine, construite par Henri IV pour alimenter en eau le jardin des Tuileries et une partie de la rive droite.
Napoléon rêve d'une capitale, ça c'est au musée Carnavalet. Il y a un spectacle, tiens là, le 9 mai 2015 à l'Hôtel National des Invalides, Tristan Duval, ça s'appelle « Amis, entends-tu ?»
Oui, c'est un très beau spectacle qui va être les 8 et 9 mai dans la cour d'honneur des Invalides, puisque là aussi Paris donne beaucoup de désir de spectacle en plein air, dans des lieux comme ça qui sont merveilleux. Et la cour d'honneur des Invalides accueille ce spectacle qui est organisé par Antoine Dary et l'association Amis Entends-tu, qui est la lecture par une dizaine de comédiens. Vous avez Jean Piat, Michel Galabru, Francis Huster, Thierry Frémont.
Des débutants
qui lisent et qui auront un spectacle avec des images d'archives autour des jeunes fusillés de 1945. Et c'est un spectacle merveilleux et très émouvant.
Et puis, bien sûr, les cahiers de Science et Vie sur les nouveaux mystères de Paris, avec toutes sortes d'approches assez nouvelles, assez inattendues, sur une capitale qui n'a pas fini, je crois, de nous surprendre et de nous émerveiller.
On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Michel sur les superstitions liées au miroir.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Michel qui vous demande, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission, pourquoi briser un miroir condamne à 7 ans de malheur ?
Condamnerait. On va mettre un petit conditionnel là, tout de même. D'abord, il faut vous dire que ces miroirs sont une chose relativement récente. Ça va de pair avec l'industrie de la verrerie, bien entendu. Et pendant très longtemps, les miroirs étaient surtout constitués d'objets de métal ultra poli. Alors évidemment, selon la fortune, le métal en question était plus ou moins précieux, plus ou moins facile à polir et plus ou moins réfléchissant. Dans les grandes maisons, vous aviez ces somptueux miroirs d'argent, vous avez absolument extraordinaire, et puis il y en avait de moins étonnants. Plus simplement, pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir ce genre d'objet qui restait pendant très longtemps, jusqu'au milieu du Moyen-Âge, un objet de grand luxe, vous preniez une jarre ou n'importe quel récipient dans lequel vous mettiez de l'eau, il fallait qu'il y ait un fond un peu sombre, une luminosité un peu forte autour, et puis vous vous penchez au-dessus de la surface et vous voyez. Ça, c'est toute la magie, évidemment, c'est ce reflet, cette image de soi, donc image de l'âme, forcément. Alors, souffler sur la surface de ce miroir d'eau, c'était faire trembler l'âme d'une certaine manière, et vous savez à quel point les oracles jouaient beaucoup sur cette notion. Il y a énormément de pratiques divinatoires, etc., qui se font par rapport au miroir et par rapport au reflet et au réfléchissement d'une certaine manière. Donc, briser un miroir, quel qu'il fût, c'est en quelque sorte briser l'âme et c'est libérer le démon qui s'y cache. C'est en tout cas toute la vieille superstition. Alors, une histoire raconte que Laurent le Magnifique, vous savez, Laurent de Médicis, aurait brisé un somptueux miroir, qui alors lui était un véritable miroir, une glace, et que c'était tellement rare et tellement difficile à obtenir à l'époque qu'il lui aurait fallu attendre 7 ans pour qu'on lui en apporte un nouveau. J'ai entendu raconter cette histoire en me promenant à Florence. Pour tout vous dire, j'en crois pas un mot. Le chiffre 7 est surtout un chiffre symbolique très chargé, très fort. Hein. C'est un chiffre biblique. Le monde s'est créé en 7 jours. C'est le nombre de têtes de la bête de l'Apocalypse. C'est le nombre des archanges de l'Apocalypse, enfin, etc., etc. Donc, le mystère, le miroir, le destin, voilà. Vous cassez un miroir et vous en prenez pour 7 ans. Bonjour Marion Ruggieri.